Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, à qui profite le coffret ?
Le coffret de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, pour le titre complet de cet album des Beatles. Donc, de nouveau disponible depuis la fin de la semaine dernière et pour une première remasterisation depuis 50 ans. Vous le connaissez peut-être, cet album, c'est celui qui a pour pochette la photographie du groupe en costume édouardien, très coloré, parmi une multitude de célébrités et le nom du groupe en arbuste taillé. C'est aussi celui qui contient Lucy in the Sky with Diamonds, par exemple, ou When I Am 64. Et puis, c'est un album sorti 5 ans après la formation du groupe. Deux indices, simplement pour nous rappeler, après toute la presse, Brice Couturier et Mathieu Conquet aussi d'ailleurs, qu'il s'agit d'un album qui a marqué l'histoire du pop-rock, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et classé meilleur album de tous les temps par Rolling Stones en 1987, au point qu'il préfigurait le Summer of Love, disent certains, de l'été 1967, puisqu'il est sorti effectivement le 1er juin 1967. Les gens n'écoutent plus juste un groupe, mais un nouveau monde, plus seulement un groupe, mais une œuvre picturale, disait ainsi Giles Martin, qui est le fils du producteur historique et qui s'occupe de produire cet album. C'est sans doute une partie de l'intérêt patrimonial de cette édition, 50 ans donc jour pour jour après. Les Beatles ont donc droit, eux aussi, à leur coffret super de luxe en 4 CD, un DVD, un Blu-ray, des titres inédits, une version dans l'ordre du studio, un documentaire, un livre de 144 pages signé par Paul McCartney et Giles Martin. Donc, c'est un peu le classique du coffret avec mise en avant d'une certaine authenticité, même si certains l'ont noté, paradoxalement, le clou de cette édition est en fait une remasterisation en stéréo des bandes originales, elles en mono. Alors, les rééditions de luxe ne sont pas nouvelles, c'est même un classique dans le monde de la musique, écrivait Le Parisien. Tous les 20 ans environ, poursuit-il, les catalogues les plus vendeurs de l'industrie musicale font l'objet d'une réédition pour se mettre au niveau des technologies, vendre les mêmes albums plus chers, éventuellement étendre ses droits sur un catalogue. D'ailleurs, aujourd'hui paraissent deux autres super coffrets, cet Exodus de Bob Marley, de Joshua Tree, de U2. C'était le cas aussi l'année dernière pour un live de Led Zeppelin, aussi deux albums de Metallica, tous donc en coffret super deluxe, dont le contenu peut faire penser parfois à une panoplie du fan, un peu comme pour Kraftwerk, la réédition la semaine dernière de ce coffret de 8 CD et un Blu-ray en Dolby 3D, utilisable avec un casque virtuel, réelle plus-value selon Libération en tout cas. Deuxièmement, on remarque que les rééditions en mono quand même se multiplient, contrairement à cet album des Beatles. Déjà, c'était le cas pour un autre album des Beatles en 2009, pour les Doors l'année dernière, les Rolling Stones également. Nouvelle marotte dans l'industrie du disque, la réédition en mono est un graal pour les collectionneurs, écrivait même en novembre Laurent Rigoulet dans Télérama, d'où une tendance des éditeurs à peut-être parfois survaloriser, à jouer sur un élitisme bien pensé, jugeait Sylvain Siclier là en 2015 dans Le Monde, déjà, pour qui le rythme de ces rééditions anniversaires s'intensifie, même réédition à grand spectacle, dit-il par exemple, de Sticky Fingers à l'époque des Rolling Stones ou la bande originale de Virgin Suicides par Air. Voilà, donc France Inter lui notait que les Beatles avaient un peu échappé aux rééditions. Je remarque que c'est quand même la 10e ou 11e avec inédit depuis 1970. Ce n'est pas la première remasterisation, avec des succès là par contre très divers. Alors avec des coffrets qui, c'est vrai, dépassent facilement 100 euros, est-ce que d'abord ces rééditions des Beatles sont élitistes et que pensez-vous de ce reproche ? Y a-t-il une mode, voilà, des coffrets luxueux mais sans intérêt ?
Bon, comme c'est la une de, des arocs, Christophe Comte, on commence avec vous.
Petite précision, c'est pas une remasterisation, c'est un remixage des bandes. Et c'est là la grande différence avec la remasterisation de 2009, notamment, pour lequel on avait été conviés, les journalistes à Bayreuth, on avait expliqué à l'époque, c'était le top du top. Et là, Guy Martin a repris les bandes, des bandes qui n'avaient pas été mixées à l'époque. Ils ont trouvé des bandes master qui n'avaient pas été mixées. Et il a remixé avec sa vision à lui de ce que peut être aujourd'hui un Sgt. Pepper en 2017 avec une spatialisation très différente, avec des choses qu'on entend qui étaient sur les bandes originales et qu'on n'entendait pas et qui sont remises en avant. Certaines voix doublées qu'on n'entendait pas à l'origine sur le mix mono notamment parce que voilà, c'est beaucoup plus étroit. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez bluffant. En dehors de ce truc-là, on peut très bien acheter une version simple qui coûte 9 euros ou 10 euros de cette ce remixage ou une version double avec des inédits, enfin bon, et pour les collectionneurs, les fans, etc., il y a ces gros coffrets qui prennent beaucoup de place. Et qui sont pas toujours effectivement très heureux, parce que bon, là il y a beaucoup de titres inédits, enfin en tout cas de versions inédites de beaucoup de morceaux. Il y a des coffrets comme ceux de McCartney par exemple en solo qui sont très très beaux, avec des très beaux objets, très beaux livres, etc. Mais les bonus, c'est trois faces B et deux vidéos qu'on a vues sur YouTube 50 fois. C'est pas forcément la plus-value de ces coffrets-là, et pas forcément très intéressante. Mais des fois, c'est quand même aussi une espèce de boîte au trésor où il y a des choses incroyables. Ça varie selon les groupes aussi qui ont passé beaucoup de temps en studio ou pas. On peut pas non plus inventer des morceaux inédits, des choses. Après, ça s'adresse à des gens assez fortunés que visent aujourd'hui les labels, parce que la crise étant ce qu'elle est, aujourd'hui on vend du streaming pour que dalle, et on vend des objets très très chers à 200, parfois 300 euros pour des gens qui ont les moyens. C'est exactement comme dans les concerts. Aujourd'hui, on vous vend des bundles. Vous pouvez aller serrer la louche de l'artiste, mais pour 2000 euros, vous pouvez aller le voir 5 minutes, faire signer un autographe, assister aux balances. Il y a des gens qui se payent ça pour aller voir leurs idoles. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça devienne maintenant un systématisme, même pour des choses parfois un peu anecdotiques, quoi. Donc on se retrouve comme ça avec des coffrets sans intérêt. Mais tout le travail qui a été fait chez Universal autour des Who, par exemple, est magnifique. Il y a eu tous les albums quasiment sont ressortis comme ça, et il y a une vraie plus-value.
En coffret super de luxe.
Voilà, et puis, encore une fois, il y a des versions moins coûteuses qui sont également mises sur le marché. Voilà, les gens peuvent choisir s'ils ont envie de dépenser 160 euros. Grand bien leur face, personne ne les oblige.
Et concernant Sgt Pepper, puisque c'est l'actualité...
Très honnêtement, je pense que...
On peut se limiter au double CD
On peut, oui. Si on est vraiment très très fan et qu'on a un peu d'argent et qu'on a envie d'avoir un beau coffret, le livre est très très beau. Ça, pour le coup, aussi bien, c'était déjà le cas dans le coffret de vinyle des Beatles, où il y avait un livre somptueux. Et là, c'est la même chose. Ils ont vraiment soigné cet ouvrage. Après, le reste, bon, c'est un peu anecdotique.
Olivier Lam,
moi, il me semble que ça interroge vraiment notre rapport à la culture, en fait, en général. On est passé d'un état de pauvreté, littéralement de la musique, où la plupart des gens s'achetaient un disque par mois, si c'était des fans de musique, peut-être un par semaine, s'ils étaient un peu fortunés, et où la totalité de ce qu'on pouvait avoir comme nouveauté à se mettre sous la dent, c'était 30, 40 minutes, éventuellement une heure de musique nouvelle, et à part pirater de la musique en cassette... c'était la seule manière de se mettre des choses nouvelles sous la dent. On est passé à une ère d'abondance, d'abord avec le téléchargement illégal et un peu délirant, puis à l'ère du streaming. Et à côté de ça, on est le premier siècle, c'est Alberto Manguel, le fameux critique, qui parle d'un siècle, le premier siècle qui risque de ne laisser aucune trace derrière lui, puisque ce grand chambardement, passage du matériel au virtuel, fait que peut-être que on sera le premier siècle à laisser quasiment aucune trace derrière nous. Ça crée, je pense, beaucoup d'anxiété chez les gens, et peut-être que une des réponses à ça, notamment chez les fans de musique, c'est un hyper matérialisme un peu hystérique. On veut que plus rien ne nous échappe, et comme on a eu accès à énormément de choses, on va dire rares, que ce soit des musiques un peu oubliées ou alors des choses de groupes très connus qui étaient très obscurs, et ben on a envie un peu d'inscrire ça dans le marbre, et donc on nous vend des coffrets avec en gros comme on promettait à l'époque des premiers CD, la musique qu'on pourra écouter pour l'éternité. Je pense qu'on a un peu envie d'éternité, et comme avec Internet il y a beaucoup de gens qui sont devenus mélomanes plus facilement. Comme grâce à Wikipédia, on est tous un peu des, on peut tous se transformer en spécialiste, enfin en avoir l'illusion en un instant. Bah, ça correspond à un régime, je pense, de consommation de la culture qui a l'air logique. La question après, c'est que on sait que écouter de la musique et devenir un vrai spécialiste et rentrer dans les œuvres, ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose que
mais
qu'aucun,
ce genre
aucun
d'objet
objet
aide un peu à ça. C'est une éditorialisation comme la Pléiade.
Bien sûr. Y a,
voilà, avec des analyses.
Mais
avec
on sait
des...
que la Pléiade, par exemple, les notes sont lues par, les appareils critiques de la Pléiade, finalement, ouais. Ça va très peu, très peu de gens.
Les volumes sont déjà peu ouverts.
Oui.
Ils sont souvent dans les bibliothèques.
Mais au moins,
mais
ça existe.
Peu ouverts.
Mais
c'est...
Non, pour les gens qui, je pense que si on achète le gros coffret Beatles sans rien connaître de Sgt. Pepper, à la sortie, on connaît beaucoup de choses. Sans passer par Wikipédia et tout ça. Et là, on est vraiment un
dans un vrai
qui...
contact.
Voilà. Bon, après, on n'est pas
après, il y a aussi, c'est aussi des objets qu'on a envie de posséder. Quand bien même, on sait soi-même que peut-être on n'écoutera jamais l'intégralité de ce qu'on y trouve. Je pense à ce coffret de Bob Dylan que j'ai acheté, que je me suis fait offrir à Noël. L'intégralité des concerts de la tournée, la fameuse tournée de 1966, quasiment jour par jour, avec des enregistrements de qualité très diverses. Je suis à peu près certain que je n'écouterai jamais l'intégralité.
Mais
je l'ai à la maison
l'avoir.
Et je suis très heureux de l'avoir en tant que voilà, je me dis, j'y retournerai sur mes vieux jours. C'est sans doute, ça sera sans doute jamais le cas, mais voilà.
Mais c'est là.
C'est là.
Mmh. Vous avez Martinet.
Oui, en écoutant Olivier, c'est vrai, je me disais, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une dimension, pas seulement nostalgique, effectivement, mais presque parfois muséale, on pourrait dire, côté musée, à domicile de ces rééditions en grand coffret de luxe, avec effectivement un certain nombre d'objets. Pourquoi j'y pensais? Parce que c'est lié aussi à cette manière dont effectivement Internet et la dématérialisation a fait irruption dans le monde de la musique. Là, si on a justement tant aujourd'hui un accent qui est mis par les éditeurs, par exemple sur les rééditions en mono, je me demandais si c'était pas de la même manière une manière de revaloriser, mais de revaloriser techniquement aussi les œuvres, quelque chose qui se fait de plus en plus, je le disais, pour les Doors. Et j'en veux pour preuve que cet album, là, Sgt. Pepper, il a une histoire également qui se trouve à cheval, si j'ai bien compris, pour la vie des Beatles, entre la période où ils font beaucoup de concerts et la période où ils vont passer au studio. Et c'est un peu le premier album qui, justement, signe cette entrée en studio. Et il a cette histoire, effectivement, d'enregistrement en mono qui, tout de suite, a été passée par George Martin, si j'ai bien compris, en stéréo pour des besoins de diffusion. Mais alors là, Paul McCartney était plus dans le coup, il n'était pas forcément d'accord. Du coup, ressortir aujourd'hui cet album et peut-être certains autres en mono ou en discuter de leur sortie en mono, en stéréo, ça témoigne, effectivement, d'un intérêt, c'est pour ça que je disais muséal, mais quasiment technique pour les conditions de production, etc.
Christophe Comte ?
Oui, parce qu'on a, évidemment, la technologie a tellement évolué ces dernières années qu'elle permet d'isoler des sources, de refaire des bandes, enfin de refaire des masters. Et quand on va, moi ça m'est arrivé deux fois d'aller à Abbey Road, et pour les Beatles et pour Pink Floyd, deux groupes quand même pour lesquels le son est très important, avec des ingénieurs qui vous expliquent tout ce qu'ils ont fait. Vous écoutez ça dans les studios d'Abbey Road, vous avez l'impression réécouter quelque chose de totalement inédit. Après, quand on rentre chez soi, qu'on l'écoute sur ses enceintes pourries, c'est moins le cas. Mais c'est vrai que ces types-là sont quand même des
orfèvres.
Des orfèvres. Et ils sont employés par les studios pour faire vivre une œuvre très importante et commercialement très juteuse, faut pas l'oublier. Mais quand même, malgré tout, ils pourraient se contenter, comme dans la première génération des CD des Beatles, qui était épouvantable, de balancer des choses comme ça. Les gens continueraient
à les
acheter.
Comme les premiers DVD qui étaient souvent repiqués sur des mauvaises
VHS. Aujourd'hui, les albums des Beatles sont vendus dans les kiosques. Bon, c'est devenu très, c'est très démonétisé. Redonner une sorte de valeur forte à un album comme Sgt. Pepper. Encore une fois, c'est le premier disque des Beatles à bénéficier d'un traitement comme ça. Il y avait une édition des 20 ans du double blanc qui avait eu, qui était pas mal, mais c'était pas non plus. Et là, on rentre vraiment dans un disque qui est très important à bien des égards.
Olivier Lam.
Non, je suis
très bien. Très bien. Ça, il me reste à annoncer l'exposition qui est ouverte ce jour à la la radio. Exposition expérience autour de cet album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, puisque c'est une exposition immersive. On va se promener. Vous avez des infos là-dessus? Vous avez travaillé là-dessus?
J'ai pas plus d'infos. Non, j'aurais un petit chiffre.
Ça va être une balade,
pour
un parcours 3D interactif, radio guidé. On rentrera 4x4 comme les Beatles, dans les différents univers et les différentes thématiques. Il y aura aussi une exposition, évidemment, de quelques disques de l'invraisemblable discothèque de Radio France, avec des visuels qui ont été inspirés par cet album, et puis à plusieurs émissions. En ce moment même, chez nos camarades de France Inter, il y a un hommage au studio 104 avec Rover. Et puis mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique, donc ce sera aussi un peu la fête des Beatles sur les antennes de Radio France, vous vouliez dire?
Oui, je voulais simplement préciser que c'était effectivement juteux pour les éditeurs, puisque ce sont 30 millions d'albums de Sgt Pepper qui sont vendus. C'est autant que le nombre de rééditions qui se sont vendues depuis 1970 également.
On regardera les chiffres des ventes des coffrets, est-ce qu'on le saura? On verra les différentes éditions.